Salut tout le monde, je viens de faire un angle mort au complet, très long, minimum 20 minutes. J'avais pas enregistré. C'est pas grave, c'est trop un bon sujet, ça fait que je continue. Un mot sur Wimpy en audiobook, pour commencer, rapidement. Pourquoi je vous parle de ça, d'ailleurs? Pas pour faire une plug, je vous l'ai plugué en masse. Si vous me suivez dans l'angle mort, vous êtes au courant de tout ça. Je vous le dis parce que je veux vous dévoiler l'intérieur de ce projet-là pour ceux qui voudraient le faire. Ça fait que tous mes membres Patreon l'ont reçu hier, gratuitement. 1h25, audiobook enregistré dans un studio professionnel. Ça m'a coûté 517 $ précisément, un très bon prix. Puis là, j'attends l'autorisation de Audible qui devrait rentrer d'une journée à l'autre pour dire « Parfait, c'est en ligne, en vente chez nous. » 9,95 $, comme mon livre. Mon livre, rappelez-vous, j'ai fait un contrat avec Éric Pilon que j'ai trouvé sur Upwork à 500 $. Moralité, si vous dites « J'aimerais tant ça publier un livre, papier, ou j'aimerais ça faire un audiobook », bien, c'est 500 $ chacun. Vous m'écrirez si vous voulez plus de détails. Pour 1000 $, vous avez un livre de 75 pages, super beau, avec une belle couverture, livré à domicile pour 10,45 $. Même affaire, un audiobook d'1h25, qualité professionnelle. Ça, là, ces deux affaires-là, c'est 1000 $. Puis si vous faites aucune faute, vous écrivez comme un dieu, bien, ça va vous coûter zéro vous faire publier. Puis si vous voulez, j'ai fait le test, si vous voulez, comme moi, parler dans un iPhone puis faire votre audiobook carrément juste dans un iPhone, les specs le permettent, je l'ai fait hier. Ça fait que là, moi, j'ai choisi de prendre un studio avec, tu sais, je me suis dit, Caroline, c'est mon premier audiobook, je vais le faire. Mais quand même, c'est 500 $, c'est pas 5 000 $, là. Ça fait que pour 1000 $, je vous répète aussi que ça va être en vente pour l'éternité. Là, moi, je m'en occupe plus, là. Je m'occupe plus jamais de ça. Je fais juste regarder, tiens, je viens d'en vendre un, je viens d'en vendre trois, je viens d'en vendre sept. Aujourd'hui, je n'ai pas vendu. T'as coup, j'en... C'est comme, garde. Je suis rendu à 250 $ de revenus. Parce qu'oubliez pas, ça me donne 6 $ par livre quand j'en le vends 10. Avec un éditeur, ce serait 1 $. Ça fait, écoutez, c'est sûr que quand t'es un éditeur, t'es dans une librairie, tout, c'est bien plus hot, là, je suis pas fou. C'est beaucoup moins payant, mais c'est plus prestigieux. Je fais juste vous dire, vous voulez faire un livre? Maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus aucune raison de pas le faire. Là, je vous parle aujourd'hui, je me répète. C'est plate, c'était bon ce que j'ai fait. J'espère que je vais vous faire au moins l'équivalent. Il y a un article de Martine Saint-Victor dans la presse qui s'appelle « Savoir quand partir ». Martine Saint-Victor, c'est un peu une nouvelle vedette du PR puis de la pro en communication. Elle fait des analyses politiques. Elle travaille pour une compagnie qui s'appelle Edelman, qui est un peu partout dans le monde. Fait que je pense que c'est la directrice Montréal-Québec de ça. Puis elle est très bonne. Elle est très bonne, mais c'est pas particulièrement original. C'est rare que je la lis puis je fais « Ah! » Ça, tu vas m'apprendre quoi. Mais c'est assez standard, mais c'est une vraie expertise qu'elle a. Donc, souvent, quand je vois qu'elle publie quelque chose, parce qu'elle écrit des fois dans la presse, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, elle est archi à gauche, ce qui fait que son article aujourd'hui, entre autres, je ne suis pas surpris, c'est vraiment les athlètes, entre autres, qui décident d'arrêter, tu sais, de dire, regarde, comme la gymnaste Biles, là, aux États-Unis, qui a fait au Jeux de Tokyo, « Ah non, non, moi, il y a des épreuves, je ne fais plus. » Je file pas bien, etc. C'est dans la grande mouvance santé mentale pour laquelle je m'inscris total. Moi, la démarche un peu transparente que je fais tout le temps, quand je parle moi-même que j'ai eu des états dépressifs quand j'avais 32-33 ans, j'en ai parlé à la radio, j'ai aucune cachette de rien parce qu'il n'y a pas raison d'en avoir. Puis donc, moi, je suis pro ça. Ça fait que je trouve que c'est très intéressant. Puis effectivement, grand amateur de lutte que je suis, s'il y a une profession où c'est pathétique de voir du monde qui ne veulent pas arrêter, c'est les lutteurs qui sont rendus dans les gymnases d'école. Le gars, il a 64 ans, tu sais. Puis même, il y en a 64 qui sont encore très hot, mais ça va bien plus loin que ça. Puis il ne sait pas, il ne bouge plus, tu sais. C'est fait que je suis entièrement d'accord, mais j'ai un bémol. J'ai un bémol avec toute la mode. Puis quand je dis mode, c'est pas... je dis pas ça pour... voyons... J'ai pesé sur mon iPad, OK, excusez-moi, j'ai arrêté la musique de fond. C'est pas mode de façon péjorative, là. C'est juste qu'effectivement, c'est dans l'air du temps, je devrais dire. Ça sort mieux. Santé mentale. Mais j'aurais le goût de répondre une chose. L'article s'intitule « Savoir quand partir ». Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de vous parler de « Savoir quand persévérer ». Parce que dire non, j'en ai fait un épisode au complet sur savoir dire oui. D'ailleurs, je salue Bianca que j'ai vue hier aux Winners. Bonjour Bianca, qui m'a dit qu'il est abonné à mon Patreon puis qui a beaucoup aimé cet épisode-là. Donc, je la salue. Oui, parce qu'à chaque fois que je sors du gym, bien, je m'en vais fouiner aux Winners. Puis, elle est gérante là-bas, l'ami Bianca. Donc, bonjour à elle. Donc, le lien que je veux faire avec l'épisode de oui, c'est que si on dit savoir quand partir, c'est quand même dire non. Ça fait partie de la catégorie non. Savoir persévérer, c'est la catégorie oui. Puis c'est avec les oui que les choses arrivent, c'est pas avec les non. Ça fait qu'on peut s'emmitoufler dans plein de bonnes raisons de dire « Ah mon Dieu, pour protéger ma santé mentale, j'ai décidé que... » Ça reste un non. Ça peut être un non très justifié, que moi-même je ferais et que j'ai fait. Dieu sait si je sais dire non, c'est que c'est pas le problème. Mais dans ma logique, les choses arrivent quand tu dis oui. Puis quand je dis dans ma logique, comment dire que j'ai tout à fait un peu partie de ma ritournelle, mais je l'invente pas, là, ça marche demain. Bon. Donc, moi, savoir quand persévérer, c'est important. Alors, laissez-moi vous parler de mon expérience à Paris. Hein, je vous fais ça court. 2009, j'ai fait 100 spectacles à Paris. C'était mon plus grand rêve. C'est encore une des affaires qui me rend le plus fier. Puis Michel Grenier, qui écoute Angle Mort tout le temps, qui est émérite gérant d'artiste et bon chum à moi, le sait. Qu'il n'y en a pas d'autres en humour qui se sont autoproduits 100 fois à Paris. Moi, j'en connais pas d'autres, ni d'avant, ni depuis. Ça fait que c'était pas juste un exploit de dire, ben, coudon, ça marche, puis je vends l'étiquette, puis le monde rit. Mais juste que ce projet-là existe pour ce nombre de soirs-là, ben, tout le monde que je connais qui sont allés à Paris avait un producteur qui les tenait par la main, puis qui leur donnait même une paye. Moi, j'ai loué ma salle. Alors, comment c'est arrivé? Et quel est le lien avec le sujet? Pendant 5 ans qui ont précédé 2009, j'ai fait au moins 2 et règle générale 3 voyages par année à Paris pour cogner à toutes les portes, qui n'ont jamais ouvertes, que tout le monde s'en sacrait. Les producteurs ici que je connaissais personnellement me répondaient même pas. C'était comme, c'est quoi son délire, Boilard, de vouloir jouer à Paris 0? Parfait. En avril 2008, Guy Laforce, qui travaille dans le domaine depuis longtemps, me dit, hey, dis-moi, j'ai connu, dans le temps que je travaillais pour Juste pour rire avec Arturo Brachetti, j'ai connu un gars qui est un tourneur, qu'on appelle là-bas, donc un agent de tournée, qui s'appelle Bruno, là, j'oublie son nom de famille, mais mettons Bruno Retailleau, mettons. Puis qu'il pourrait te voir si tu, le prochain coup tu y vas, puis il pourrait te dire, lui, il peut peut-être t'aider. C'est que ça, c'est un rendez-vous que j'avais en avril 2008. Et effectivement, Bruno m'a organisé une audition au Théâtre des Blancs-Manteaux en juin 2008, un dimanche à 4 heures, il y était 8 personnes. D'excellentes conditions pour faire rire du monde, vous le devinez. Mais j'ai quand même tiré mon épingle du jeu, puis la directrice artistique, Pascal Courtin, a fait comme, mon Dieu, tu sors de où, toi? C'est vraiment ça qu'elle m'a dit après le show. Puis le Bruno en question, il a disparu après, complètement, pour des raisons totalement obscures. Puis moi, j'ai repris contact avec Pascal Courtin direct, puis on s'est fait un deal. J'ai dit, garde, moi, je veux jouer. Tu tripes? Parfait, je vais la louer ta salle. C'est que j'ai commencé le 3 janvier 2009. Je jouais à 19h les lundis, mardis, mercredis. Puis rapidement, les programmations de ces théâtres-là changent souvent. Je suis tombé jeudi, vendredi, samedi à 21h, je pense. En tout cas, j'étais prime spot après presque juste un mois. Puis ça roulait de même pendant... un an, sauf l'été que je suis revenu ici. Donc, sans représentation. Alors, tout ça, vous faites, waouh, c'est super. Ouais, mais attends une minute. Je viens de vous dire que pendant 5 ans, j'ai cogné à toutes les portes, il n'y avait rien. Et un mois avant, donc au mois de mars 2008, un mois avant ma rencontre avec Bruno Retailleau, je suis au breuvage avec Daniel Vigeant, un ami d'un ami, tu sais, que je voyais des fois. Puis on est au breuvage. Puis j'y raconte que j'abandonne. J'ai dit à Daniel, je dis, écoute, Daniel, moi, ça fait 5 ans que je l'ai le feeling, parce que j'avais fait un petit démo, moi, dans le temps. En 2005, j'avais fait une petite représentation dans le sous-sol d'un restaurant organisé par mon chum Antoine à Paris. Puis ça avait été un délire. J'avais fait 1h45. Puis j'avais joué pour les HEC de Paris. En tout cas, là, je vais trop vous mêler, là, mais je l'avais vu qu'il se passerait de quoi. T'sais, je l'avais. À 2 reprises, j'ai fait hey, moi, si je viens ici, je le sais que ça va marcher. À un moment donné, il faut que tu aies confiance dans ton truc. Puis 5 ans plus tard, personne n'en veut. Parfait. Ça fait que j'ai dit ça à Daniel et il me dit la phrase suivante, banale, mais ô combien vraie. Pourquoi tu es sûr que c'est pas ton prochain rendez-vous qui va être le bon. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire un matin. Quand Martine Saint-Victor écrit « savoir partir », elle a raison. Elle a raison. Mais j'ai le goût d'opposer ça, 50-50, savoir, persévérer. Daniel Vigeant, là, s'il ne m'avait pas dit ça, j'arrêtais. J'y allais pas au rendez-vous. Ça ne sert à rien. Ça fait 5 ans. Ça ne marchera pas. Puis j'ai fait, il a raison. Puis c'est quand même la première fois que là, j'ai un rendez-vous qui n'est pas parce que c'est moi qui s'acharne, mais tu sais, quand ça vient de quelqu'un d'autre, bien, calvasse, je suis allé là. Je me souviens, le gars était là avec sa blonde. J'avais amené mon livre, moi, si j'étais une fille. J'avais amené le code boileur du vrai gars. J'avais parlé de ce que je faisais à TV, tout. Puis il m'a organisé cette audition-là. Puis chut, j'ai passé un an à Paris. Puis c'est l'affaire que je suis, c'est le projet que je suis le plus fier. J'en ai fait des affaires qui m'ont fait triper à la mort. L'été que j'ai animé avec Paul-Raphaël Charon, le retour au 93, juillet 2019. Écoute, on volait dans les airs. Testostérone, c'était malade. Des soirs au Jésus, c'était malade. J'en ai plein d'affaires que j'ai faites qui sont extraordinaires. Mais mon show à Paris, c'est parce que c'est tellement comme tu te dis, coudonc, tu rêves-tu, tu sais. Tu vois ton affiche sur Internet, les critiques. J'avais des critiques de fou, là. C'était vraiment... C'était hot, mais tu sais, c'était comme... Écoute, il y a 300 shows par soir à Paris. 300 shows par soir. Fait que si t'as pas une équipe qui embarque... Je me suis fait tourner autour par des petits producteurs. Ça n'aurait rien changé, tu sais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, après une salle de 100, il faut que tu tombes à une salle de 200. C'est vraiment même ça marche. Mais salle de 200, tu peux pas être là tout seul à bout de bras. Tu sais, ça te prend vraiment... T'embarques avec un producteur qui dit « Hey, lui, là, ça va marcher, puis on part, puis il te signe pour des années. » C'était pas mon but, anyway. Moi, j'allais là vivre une aventure incroyable. C'est ça qui est arrivé. Si tout à coup, la vie aurait voulu que, je sais pas quoi, je suis découvert par je sais pas qui, peu importe. Mais c'était pas le but. C'est pour ça que je vous dis que c'est hallucinant. Mais si j'avais fait du « Il faut savoir quand partir », ben, aujourd'hui, je vous dirais « Hey, moi, là, je rêvais de jouer à Paris, mais, tu sais, j'ai bien fait, j'ai arrêté. » C'était pas pour moi, ah, j'ai vraiment essayé. Non, c'était la fois d'après. Il y a un psychologue à un moment donné qui disait, quand tu frappes 100 fois sur un caillou puis qu'il casse, c'est pas 99 fois inutile puis c'était la centième fois qui était la bonne. C'est 99 coups qui ont permis que le centième, le caillou a cassé. C'est tellement vrai. Ça fait que je peux pas vous dire en quoi les 5 ans ont permis le dernier rendez-vous. Mais dans mon cas, ce chemin-là, ben, c'est celui que moi, j'ai eu. Alors, loin de moi de parler de destin, je crois pas ça pantoute. Je veux juste vous dire que j'ai peut-être ajusté mon discours, j'ai peut-être, tu sais, peut-être, je sais pas. Mais je suis pas un gars qui est arrivé un dimanche devant Pascal Courtin, puis j'ai fait un show en me disant, ouais, non, peut-être. Non, j'étais un gars qui avait faim. Ça faisait 5 ans, puis c'était la last call. Ça fait que ça a peut-être rapport. Tout a rapport. Ça fait que c'était ça aujourd'hui que je voulais vous dire. C'est-à-dire, bien malin celui qui peut dire c'est le temps d'arrêter ou c'est le temps de continuer. S'il n'y en a pas de formule. Je pense que mon point aujourd'hui, c'est plus de dire le danger, c'est quand il y a une formule. Si la formule, c'est « Ah, ben moi, j'essaye, puis quand j'arrête, j'arrête. » Puis c'est peut-être ça le problème, c'est quand on met une formule. Puis c'est certainement pas d'y aller au feeling qui est le bon critère. Je suis désolé, mais quand tu dis « Ah, oh, moi, je vais au feeling », quand je sens qu'il faut persévérer, « Ouais, mais le feeling, c'est n'importe quoi. » On dit le feeling comme si ça sortait, le genre, une langue de feu sur la tête, comme dans la Bible. Non, non. Le feeling, c'est aussi basé sur « T'as peur de quelque chose, mais tu te l'avoues pas. » C'est plein d'affaires. Ça fait que moi, d'y aller au feeling, non. Moi, je crois pas à ça, pas en tout. Mais il reste qu'il y a quand même aucune formule pour dire « Je devrais arrêter » ou « Je devrais pousser ». Mais je vais terminer avec quand même une affaire pour laquelle, non seulement je crois, mais c'est la pure évidence. Les projets, ils arrivent avec des oui, ils n'arrivent pas avec des non. Salut!